et Dieu dans tout ça.
C'est clair qu'il y a ce besoin de parfois avoir des moments de contemplation, d'émerveillement.
Bonjour à vous, c'est promis, pendant tout l'été, de l'émerveillement, nous allons vous en offrir. Émerveillement devant la pensée et les idées de nos invités. Jusqu'à la fin du mois d'août, nous vous invitons à écouter avec nous quelques-uns des meilleurs entretiens de la saison écoulée. Et pour entamer cette série estivale, nous retrouvons le neurologue Steven Lorais. C'est un scientifique belge qui médite et qui étudie les effets positifs de la méditation sur notre cerveau. Bon début d'après-midi avec nous.
La première,
13h15, 14h le dimanche,
et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
En tant que neuroscientifique, mieux vaut dire que nous ne comprenons absolument pas comment quelque chose de matériel, notre cerveau, peut produire des émotions, des sentiments et des sensations immatérielles, c'est-à-dire notre conscience. C'est l'un des plus grands mystères et nous ne pouvons écarter aucune hypothèse. C'est ce que confie notre invité dans son nouveau livre, Steven Lorais, qui détaille les effets positifs de la méditation sur notre cerveau. Vers 13h50, notre grand dictionnaire et avec Martin Legros, nous essayerons de percer les secrets de nos émotions. Soyez les bienvenus dans Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Cela vous permet de vous arrêter et d'observer ce qui se passe en vous.
On revient juste vers soi et on est présent. Juste ça.
Ça m'a permis de découvrir une forme de liberté, en fait.
C'est une manière d'être.
Voilà quelques réflexions à propos de la méditation. La méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est le titre de votre nouvel essai, Steven Lorais. Vous êtes un grand scientifique belge, vous êtes neurologue, directeur de recherche au FNRS. Vous dirigez notamment le centre du cerveau au CHU de Liège et des unités de recherche sur la conscience et sur le coma à l'université de Liège. La méditation, c'est une manière d'être. Vous avez reconnu celui qui a prononcé ces mots il y a quelques instants ?
Non.
Mais c'était Mathieu Ricard.
Ouh !
Moine bouddhiste. Jack. Il a déjà plus de 60 000 heures de méditation au compteur. Vous avez exploré son cerveau avec l'une de vos équipes. Nous y reviendrons ensemble tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais que nous nous arrêtions sur quelques mots. Et d'abord, sur le mot « esprit » qu'utilise très régulièrement Mathieu Ricard et qu'il vous arrive d'employer occasionnellement dans votre nouveau livre. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est l'esprit ? Quand on était un scientifique, Steven Lorais.
Je ne sais pas. Je pense que là, c'est le défi de justement définir l'esprit, l'âme, la conscience. On a beaucoup de mots et pour moi, il y a quand même cette réalité. On est là à voir ce dialogue. Mmh. Vous avez des pensées, des perceptions, des émotions en ce moment même qui sont bien réelles. Cette conscience humaine, ben, on n'est pas d'ailleurs le seul animal à avoir des perceptions. Comme scientifique, j'aime comprendre ce phénomène qui est quand même important. Comme médecin, ça devient très réel quand on est confronté à quelqu'un avec le cerveau blessé, qui ne l'a plus. Et alors, il me semble important que ce sujet, qui très longtemps était le domaine de la religion, la philosophie, mais non, et ça ne fait pas si longtemps que ça, est devenu un sujet scientifique. Je pense que ce n'est pas bien qu'on l'a considéré comme un sort de tabou, qu'on s'est autocensuré dans notre recherche sur la conscience.
L'esprit égale la conscience ?
C'est, je pense à chacun de définir. Moi, je ne suis ni prêtre ni philosophe. J'essaie juste de comprendre ce phénomène extraordinaire.
Et ce mot conscience, si vous deviez le définir, vous, en tant que scientifique, en quelques mots, ce seraient lesquels ?
Alors, évidemment, comme médecin, on a une définition, surtout quand on doit définir l'inconscience. Hein. Et cette définition, elle est très simple. Si je veux savoir si vous... être conscient, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais apprécier votre niveau d'éveil. Là, vous êtes devant moi, les yeux grands ouverts.
J'ai l'air conscient.
Ça, c'est déjà bon. Mais il faut plus. Il faut, le test de la conscience, c'est je vais vous poser une question. Bougez la main gauche.
Voilà.
Voilà. Si vous le faites très bien, si vous ne le faites pas, est-ce que j'ai vraiment prouvé que vous étiez inconscient? Donc cette conscience, elle est subjective, personnelle, et c'est là tout le défi. Avec toutes nos machines, les IRM fonctionnels, les PET scans, les électroencéphalographies, on peut faire des mesures objectives, mais j'ai toujours besoin et faire le pont avec la personne qui est là, dans la machine, qu'est-ce qu'elle perçoit. C'était la même chose avec Mathieu Ricard, c'est la même chose avec le Dalai Lama, quand on commence à discuter de ce sujet-là, c'est compliqué, mais évidemment pas impossible. Et justement, le défi, c'est de tenir compte de cette phénoménologie de qu'est-ce qu'on perçoit et qu'est-ce qu'on peut mesurer, et puis appliquer la méthodologie scientifique, c'est-à-dire de confronter ce qu'on pense comprendre sur le sujet avec ce qu'on pense mesurer.
Ce qui est passionnant, Stephen Leray, c'est que vous avez découvert que dans le cerveau humain, il y a deux réseaux de conscience, un réseau externe et un réseau interne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça brièvement?
Oui, il y a cette conscience sensorielle, c'est ce que vous entendez, vous voyez, tout ce qui passe par vos sens. Là, il y a un réseau qu'on appelle le réseau de la conscience externe, qui est à l'extérieur, pour simplifier, devant, à l'arrière, pour chaque hémisphère d'ailleurs. Vous savez, il y a ces deux côtés, le côté gauche qui est dominant, qui est celui qui peut communiquer ce qu'il perçoit, mais il y a aussi l'autre. En réalité, ils interagissent en permanence. Et puis, à côté de cette conscience extérieure, il y a, pour paraphraser mon philosophe préféré, Jean-Claude Van Damme, being aware. C'est cette petite voix qui vous parle en ce moment même. Being aware, c'est cette imagerie mentale, c'est la conscience interne avec un autre réseau qui justement est à l'intérieur. Et donc ces deux réseaux en permanence sont en sorte de compétition. Ou bien là, vous êtes absorbé et en train de faire de l'imagerie mentale, ou bien vous êtes orienté vers l'extérieur. Et donc nos études, que ça soit chez des sujets sains, mais aussi l'hypnose par exemple, ou la méditation, nous permettent de tester ces hypothèses.
Et cette petite voix, elle vient d'où, Stephen Leray? Alors, on peut en dire quelque chose d'un point de vue scientifique?
Mais elle est très importante. Je pense qu'elle nous permet à planifier. Là, je suis sûr que pendant cette interaction qu'on a, ces trois quarts d'heure, vous allez aussi penser à autre chose. Tiens, qu'est-ce que je dois encore faire ce soir, demain, un email, un SMS?
Je suis totalement dans cette rencontre, Stephen Leray, je vous assure.
Super, là, ça, c'est, vous êtes un esprit entraîné. Justement, la pleine conscience nous permet d'être plus dans le présent, mais c'est un exercice. Souvent, on est quand même un peu ailleurs. Et donc, cette petite voix, cette capacité qu'on a à anticiper, c'est très puissant. Mais ça peut aussi devenir des ruminations. Et alors, ça peut donner des angoisses, ça peut nous empêcher de dormir. Et donc, on commence à mieux comprendre ces deux aspects de la conscience, externe, interne, et aussi ce qui se passe dans le cerveau, ce cerveau qui est important, mais vous l'avez déjà dit, il ne faut pas être trop arrogant. Là, il n'y a personne qui comprend comment expliquer ces phénomènes, comment de quelque chose de matériel là, que j'étudie, c'est le cerveau.
Ça, c'est la grande question.
Ah, c'est un des grands mystères, comme l'origine de la matière, de la vie, la conscience. Je ne peux pas même pas dire on a compris 50%, 5%. 0,00. Notre ignorance, elle est énorme.
Stephen Leray, vous vous êtes penché sur l'état de conscience des patients comateux, notamment. Qu'est-ce que vous avez découvert jusqu'ici à ce sujet-là, de fondamental?
Tout d'abord, que la conscience, c'est pas tout ou rien. Je pense que l'erreur historique, c'est de dire, voilà, vous avez quelqu'un qui a eu un accident, un arrêt cardiaque, et ou bien on est dans le coma et on récupère, ou bien on va mourir, ou bien on survit, mais dans ce qu'on appelait avant un état végétatif.
Vous détestez cette expression.
Mais oui, on ne va pas comparer quelqu'un qui est votre proche, là peut-être, dans ce lit d'hôpital, on va dire il est végétatif, végétal. Non, on parle maintenant d'un éveil non répondant, parce que c'est ça qu'on voit, c'est des personnes qui ouvrent les yeux.
Un éveil non répondant.
Voilà, ils survivent, à un moment ils vont ouvrir les yeux, ils ont l'air éveillés, mais ils ne répondent pas à la commande. Et on avait l'erreur de dire, voilà, on est conscient, on ne l'est pas. Et quand on est dans ce fameux état végétatif, on dit éveil non répondant, ben on attend de mourir. Non, on peut être plus ou moins éveillé, plus ou moins conscient. Et on a aidé à définir, à mieux comprendre ce qu'on appelle maintenant cet état intermédiaire, l'état de conscience minimale. C'est des personnes qui survivent, qui ont des perceptions, des émotions, mais qui ne sont pas capables de les exprimer.
Mais vous êtes quand même parvenu à entrer en communication avec ces personnes.
Alors avec ces machines, tout d'abord, on va essayer de réduire l'incertitude sur leur diagnostic. Est-ce qu'ils sont conscients? Dans quelle mesure et les machines nous aident hein, quand on regarde les dégâts et ce qui reste encore comme fonctionnement au niveau du cerveau, on peut essayer de réduire l'incertitude et on a vraiment avec l'équipe participé à cela. Puis on va essayer de répondre à la question et maintenant, est-ce qu'il y a des chances de récupération hein, la question du pronostic. Et là, à nouveau, on ne peut pas construire sur du sable, on ne peut pas prendre des décisions quand déjà le diagnostic, le pronostic n'est pas bien établi, bien documenté. Et puis évidemment, on essaye d'améliorer leur qualité de vie et on a proposé une série de nouveaux traitements. Avec l'équipe, par exemple, on est pionniers pour stimuler le cerveau avec des électrodes, avec des faibles courants. Et donc ça, c'est fascinant. On comprend maintenant, c'est un, le dogme, la conscience est tout ou rien, faux. Deux, tous ces patients-là, ils attendent de mourir, il n'y a rien qu'on peut faire pour aucun de ces patients, c'est faux. Il y a des personnes qui récupèrent. Trois, il y a une plasticité. Et à nous de mieux comprendre ce phénomène. Pourquoi certains patients, en particulier après un traumatisme crânien, où chaque cas est différent, parfois vont avoir des récupérations qu'on n'avait pas prédit. Il faut mieux le comprendre. Et donc, on a développé une série de tests, aussi quand on voit qu'il y a des signes de conscience pour aller plus loin et donner à travers ces machines, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur, un moyen qui est indépendant d'un contrôle musculaire, donc pas un langage non-verbal, je bouge mon pouce ou je peux parler, non, c'est l'ordinateur qui détecte l'activité cérébrale, qui va décoder, on utilise l'intelligence artificielle, pour avoir un code oui-non à nos questions.
Et vous obtenez des réponses ?
Alors on peut quand même être fiers, comme petit belge, les premiers à publier dans un grand journal qui est le New England Journal of Medicine qu'il y a eu un patient qui était envoyé en Belgique, à Liège, ils viennent un peu de partout en Europe, là pour une semaine, on fait tous ces tests, il venait avec l'étiquette végétatif, on le met dans la machine, on voit, eh bien non, il n'y a plus ce qui se passe dans le cerveau qu'on pensait, on pose des questions, on regarde l'activité du cerveau et l'ordinateur va décoder, là il dit oui, là il dit non. Évidemment, ce qu'on a publié...
Et vous posez quel type de questions ? Ça peut aller jusqu'à des questions, est-ce que la douleur est là ? Est-ce que vous voulez rester en vie ou pas ?
Alors tout d'abord, il faut être sûr de la technique. Et donc on a posé des questions un peu bêtes. Est-ce que tu t'appelles Benoît ? Est-ce que ta maman s'appelle Bernadette ? Des questions où on connaît la réponse. Et alors, on valide le système. Maintenant, il faut préparer, en effet, qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie qui existe, mais aussi dans un cadre juridique, dans des questions parfois éthique. De vie et de mort, éthique. Donc, je pense que comme société, il faut réfléchir. Ces patients, ils existent. En Belgique, tous les ans, il y a 150 nouveaux de ces patients qui sont négligés. Il faut oser utiliser ce mot-là. Et donc, il faut améliorer leur trajet de soins. Hein. Ils ont besoin de centres de rééducation et encore vraiment room for improvement. On peut faire mieux. Et puis, décider quel type de patient a besoin, droit même, à ces technologies pour lui donner une voix et pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il veut. Entre-temps, je pense, et je peux inviter toutes les personnes qui nous écoutent, ça peut arriver à chacun de nous, ce soir, demain, un accident de la route, un arrêt cardiaque. Et donc, anticiper, discuter de vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez, et identifier une personne de confiance qui peut communiquer quand vous êtes plus capable de le faire, quelles étaient vos valeurs. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, témoin de Jéhovah, et vous dites tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faudra en tenir compte. Si vous dites non, pour moi, le minimum, c'est de pouvoir interagir, communiquer avec mes proches. Ça, c'est important, à côté d'un testament de vie. Et malheureusement, on ne le voit pas assez souvent.
Que se passe-t-il après la vie ? Grande question, Stephen Lorraise. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente reviennent avec des témoignages parfois surprenants.
Alors, je me suis retrouvée à la hauteur du plafond et je me rappelle avoir été très, très, très étonnée de voir de tous les côtés à la fois et de voir mon corps qui était étendu sur la table d'opération. Et j'ai vu une lumière au loin et j'étais propulsée à une vitesse vertigineuse vers cette lumière. Je suis rentrée dans la lumière et c'était une lumière d'amour, une substance d'amour.
Un bien-être que je n'avais jamais connu auparavant. Plus de douleur, nulle part, plus à supporter son corps, plus à respirer.
Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire qui puisse dire tellement on est content, heureux. Jamais je n'avais eu cette impression.
Un espèce de tunnel, enfin, mon corps a été emmené dans un tunnel qui était en spirale et je ne pouvais absolument pas m'arrêter, me freiner. Et j'ai atterri dans une lumière.
De la lumière, un tunnel et un bien-être incroyable. Que répond le scientifique à ces témoignages, Stephen Lawrence?
Je pense que ces témoignages, il faut bien écouter ces personnes. Et je me sens un peu frustré parce que je n'ai pas vécu ce type d'expérience. Et donc ici, tout d'abord, pas d'arrogance. C'est des histoires extraordinaires. On en a maintenant plus de 700 avec l'équipe. Si je peux me permettre un petit appel à témoins, parce qu'on a encore besoin de plus de ces témoignages, d'accord, contactez-nous par courriel NDE pour Near Death Experience, nde@uliège.be. Et alors, on va vous écouter. Et ensuite, évidemment, comme scientifique, on veut comprendre. On veut une théorie pour ces expériences incroyables qui, pour moi, sont une réalité physiologique. On collabore avec nos amis en Inde, où d'ailleurs, cette lumière, parfois, va être perçue plutôt comme une rivière. Dans le monde musulman, une porte. Donc, il y a des différences culturelles. Il faut mieux les documenter. Pour le moment, c'est encore trop anecdotique. À nouveau, beaucoup d'intérêt des médias, beaucoup de livres qui se vendent comme des petits pains, mais très peu de recherches. Et donc, à nouveau, avec un esprit ouvert, mais la méthodologie scientifique, on essaye d'avancer dans ce domaine.
Et les premières recherches à ce sujet, elles ont apporté des débuts d'éléments de réponse, Stephen Lawrence?
Bien entendu, on a des brillants chercheurs qui, par exemple, des neuropsychologues vont utiliser des questionnaires, parce que finalement, il s'agit d'un mémoire. C'est un peu comme le rêve. Je ne sais pas si vous avez eu le souvenir du rêve de la nuit passée.
J'ai mal dormi. Je ne me souviens plus, non.
Mais probablement que vous étiez dans un sommeil paradoxal, ou probablement il y a un rêve que peut-être vous avez oublié. Ici, c'est la même chose. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine, et juste une partie dont certains patients vont se souvenir avec tous les risques de reconstruction. Cet entretien, vous allez retenir quelque chose qui sera à peu près correct, différent certainement de ce que un ordinateur va enregistrer de manière digitale. Notre cerveau n'est pas un ordinateur. On reconstruit notre réalité avec tous les biais. Il y a les faux souvenirs. Les psychologues ont étudié, par exemple, que c'est énormément détaillé, riche, et donc pas typique, par exemple, d'un faux souvenir.
Et donc, ces tunnels, c'est peut-être une reconstruction. C'est ce que vous voulez dire?
Mais pour le moment, on a, avec toutes ces recherches, différents éléments. Évidemment, quand on est face à quelqu'un comme ça, mon point de départ, c'est de croire. Je pense que dans ce que je constate avec certains collègues, une réaction que je n'aime pas trop, c'est ben, « pourquoi s'intéresser à cela, risquer sa carrière, on a quand même tout compris, c'est un manque d'oxygène ou tel produit chimique ». Je ne suis pas d'accord. Comme l'autre extrême, où, pour ceux qui y croient, c'est ok, la preuve que l'âme quitte le corps, qu'il y a une conscience cosmique. Nous, on essaie juste d'être curieux et d'avancer.
Et de chercher.
Et de chercher et vraiment de faire des mesures. Personne, pour le moment, peut expliquer le phénomène.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Que se passe-t-il dans notre tête quand nous méditons? C'est un neurologue qui répond, c'est le scientifique belge Stephen Lawrence, notre invité ce dimanche. La méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est votre nouveau livre qui est sorti cette semaine. Que se passe-t-il dans votre vie, Stephen Lawrence, le 17 août 2012?
Oui, donc comme je raconte dans le livre, ça c'est un moment très difficile pour toute la famille, et donc je me retrouve seul, comme jeune papa, avec trois enfants. Et donc, c'est un moment de grand stress où on se pose plein de questions, on se tracasse pour ce qui va arriver. Personnellement, je commence à fumer pour calmer ce petit hamster dans ma tête là, qui tourne, tourne. Je vais boire vraiment pour mettre un frein sur ce cerveau. Je prends des somnifères, des antidépresseurs. Très vite, c'est clair que je ne peux pas continuer comme ça. Et puis, c'est à travers le yoga que je découvre qu'il y a une méditation qui me fait du bien. Et puis, l'année d'après, c'est la rencontre avec Mathieu Ricard. Là, on est à Paris. Je donne un TEDx, lui aussi.
Une conférence qu'on peut retrouver sur Internet.
Voilà, qui nous permet de discuter. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais très vite, il y a un sort de déclic. Et moi, je suis assez transparent. Donc, il me demande comment ça va. Je dis, pas très bien. Là, viens, pars en retraite avec moi. Et on l'a fait. Et moi, je lui dis, viens chez nous à Liège, comme cobaye, dans notre labo. Et il l'a fait. Et donc là commence pour moi un parcours aussi bien personnel. Et puis je rencontre des gens extraordinaires et un monde d'études scientifiques et puis cliniques où la méditation, ça fait du bien au cerveau, on le sait. Et je le prescris maintenant dans ma consulte. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça reste...
Alors qu'au départ, vous étiez méfiant, plutôt sceptique vis-à-vis de la méditation. Ça, vous le précisez dans votre essai. Pour quelle raison, Stephen Lawrence ?
Comme scientifique, je suis un sceptique professionnel et je me souviens vaguement, au début des années 2000, un journaliste qui me demandait « Tiens, vous êtes expert dans la conscience, qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience ?» Et très vite, je regarde sur notre base de données, des études publiées. Il n'y en avait pas encore suffisamment à l'époque pour que...
Et il y en a toujours d'ailleurs très peu.
Il y en a très peu, ça c'est
vrai. C'est ce que vous dites.
Il y en a très peu. J'ai regardé en Belgique les 20 dernières années, il y a 9 études cliniques. C'est ridicule. Quand il y a eu des centaines, des milliers pour tous ces médicaments qui agissent sur le cerveau.
C'est parce que la communauté scientifique ne prend pas la méditation au sérieux ?
Oui. Et puis aussi parce que, évidemment, ces études cliniques sont faites par l'industrie pharmaceutique et c'est différent de vendre une pilule. Et puis ici, je pense que la méditation, le défi, c'est de peut-être s'ouvrir et d'essayer, pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien ? Et je le constate vraiment à ma consultation, on veut une solution rapide. Et on est un peu paresseux. Prescrivez-moi une pilule, je ne peux pas dormir, j'ai mal à la tête, je suis anxieux, déprimé, burn-out. Et c'est très bien que ces pilules existent, mais entre-temps, il y a d'autres choses. Et en Belgique...
Pour aller mieux, il faut bosser, autrement dit.
Je pense. Je pense que vraiment, on peut prendre un rôle plus actif. C'est simplement essayer d'être plus attentif à notre hygiène de vie. On est confronté à un stress. Bon, je ne sais pas vous, mais le boulot, la famille, répondre à ses emails, le téléphone, on doit être toujours disponible. Et déjà les enfants, il y a les réseaux sociaux, il y a une pression. Et comment gérer cela ? On a à l'école, j'ai 4 enfants, bientôt 5, et donc
félicitations.
Ils ont appris à faire du sport. Il y a des cours d'éducation physique avec des profs dédiés. Et pourquoi pas faire la même chose pour notre bien-être mental ? Je pense qu'on le néglige. Et donc, j'invite la Belgique, la France à un sort de start to meditate. Essayez et puis découvrez. Il ne faut pas non plus attendre qu'on est malade, qu'on est patient. J'ai des personnes qui me disent « j'ai fait ce que vous m'avez suggéré, j'ai lu ce livre, ou j'ai fait un programme de méditation ». Et ça m'a fait tellement de bien, c'est dommage que j'ai attendu mon burn-out. Pourquoi pas de manière structurelle déjà le proposer ?
Mathieu Ricard est donc venu à Liège. Voilà ce qu'il nous en dit.
Le plus facile, c'est quand vous êtes des électrodes, vous êtes assis sur une chaise tranquillement. Il y en a d'autres où il y a des bruits intenses. Et puis, je prends les stimulations transmagnétiques crâniennes, ça fait quand même un choc. Et vous en avez un à 3 par seconde. Et on vous demande de ne pas cligner les yeux et de ne pas crisper le visage. Donc, et par derrière tout ça, il faut méditer le plus parfaitement possible. Donc, c'est un défi. Mais c'est quand même ce qui m'a, je dirais, un peu surpris, un peu avec amusement, c'est que malgré tout, on y arrive.
Vous écrivez à un moment dans votre essai, il est clair que pour Mathieu, ça n'a pas été une partie de plaisir. Vous l'avez fait souffrir, Stephen Lawrence ?
Ben, il a signé le consentement, il est formidable. Et donc vraiment, j'apprécie qu'il est descendu de son formidable cloître là au Népal pour venir chez nous à Liège dans toutes ces machines pendant 2 jours. Oui, c'était vraiment
des grosses journées de
12 heures d'un examen à l'autre. Mais c'est formidable parce que Mathieu est aussi un scientifique. Il a fait sa thèse de doctorat, il est curieux. Et donc, c'est ensemble qu'on a fait vraiment ce projet. On a publié avec Mathieu comme co-auteur. C'est un peu technique, mais on a développé un test où on va stimuler, c'est ce qu'il raconte, avec un aimant très puissant, des endroits spécifiques de son cerveau. Et puis, en même temps, on mesure la réponse électrique.
Avec des électrodes.
Et
250
normalement,
sur la tête.
Ouais. Et alors, on commence à mieux comprendre que vraiment, eh bien, je ne vais pas dire que le cerveau, c'est un muscle, mais vous pouvez, quand vous faites des exercices, et en fonction, évidemment, de l'exercice que vous allez faire, sur la tension, mais aussi sur le contrôle des émotions, on va voir, et on le voit chez Mathieu, des changements au niveau de la matière grise. Donc vraiment, on regarde le volume de cette densité de neurones et on voit qu'il y a des changements en fonction des milliers d'heures, dans son cas, de méditation. Et aussi des connexions. Donc par exemple, Mathieu, on a pu observer que les grandes autoroutes là, qui connectent l'hémisphère gauche et droit, eh bien, c'est particulièrement bien développé pour quelqu'un qui a 70 plus. Et donc aussi les autres études, hein, parce que ça me permet juste à nouveau d'illustrer ce que la littérature scientifique nous dit, il y a une amélioration de cette connectivité cérébrale. Et la même chose au niveau du fonctionnement, quand vous vieillissez, vous voyez, on a fait aussi le PET scan où on injecte du sucre radioactif, eh bien le cerveau de Mathieu est plus actif que la moyenne pour son âge.
Et plus lourd aussi.
Et un peu plus lourd quand on fait toutes les corrections, évidemment, qu'il faut faire. Et donc, à nouveau, et il ne faut pas être un moine bouddhiste, si vous et moi, on commence à se prêter à ce jeu, à la méditation, il y a des programmes vraiment standardisés, par exemple Mindfulness-Based Stress Reduction, hein, qui était très important pour pouvoir faire des programmes scientifiques, eh bien, vous allez sentir l'effet, mais on voit aussi sur les images du cerveau qu'il est plastique, il y a des choses qu'on peut faire et je pense que c'est bien d'en parler.
Et concrètement, ce que vous avez pu également observer, c'est qu'il y a moins de vagabondage de pensée dans la tête de Mathieu Ricard quand il médite.
Oui, donc on a ce qu'il appelle le monkey mind, c'est les esprits, on pense à un truc et puis ça nous amène à un autre et puis...
On n'en sort plus.
C'est à nouveau, ça peut devenir clairement difficile à gérer quand c'est des ruminations qui nous empêchent de dormir, qui nous donnent des anxiétés. Mathieu, il a un cerveau comme vous et moi, il a aussi ses pensées, mais il a appris, et j'essaye comme amateur de faire la même chose, de prendre un peu de distance. D'ailleurs, je peux vous inviter à faire un petit exercice ?
Oui.
Installez-vous. On met bien les jambes, on sent le sol en dessous de nous, on met les bras sur les jambes.
D'accord.
Et on va simplement respirer et avoir notre attention sur nos respirations. On y va. On va en faire encore 2. Voilà, on peut réouvrir les yeux. Ça me permet, entre 2 patients, de me donner un petit break. C'est simplement un moment de calme, quelques respirations où je deviens observateur de mes pensées. On peut le faire.
Et qu'est-ce que vous venez d'observer, là, par exemple, maintenant ?
Déjà, moi, ça me calme. Et quand on va mesurer ma fréquence cardiaque, ma tension artérielle, une prise de sang pour les hormones de stress, les études montrent que, eh bien, ça va diminuer le stress. Le stress chronique qui n'est pas bien pour notre cerveau, qui n'est pas bien pour notre santé. Et quand on a, à travers, y a différentes possibilités, il y a des applications, il y a plein de choses qui sont organisées, des livres, des audiobooks. Eh bien, quand vous avez fait quelques exercices comme ça, justement, ce qu'on vient de faire, ce qui est une méditation informelle de très peu de temps, on peut le faire dans le train. Moi, devant une réunion où je sais que ça risque d'être stressant.
Pendant l'émission à la radio.
Pendant l'émission, quand j'en ai besoin. Et donc, voilà. Parce que Mathieu, il me dit, Steven, il faut prendre 20 minutes par jour, de préférence le matin. Eh bien, je suis désolé, mais je ne les ai pas tous les jours. Il y a les petits à amener à la crèche, il y a une réunion. Et donc, j'invite vraiment, et je mets la barre vraiment pas très haute. Là, on fait ce qu'on peut. Le défi, c'est de trouver qu'est-ce qui me fait du bien à moi.
Et j'aime bien votre slogan à un moment. Un peu moins de médication, un peu plus de méditation.
Oui, tout à fait. Et à nouveau, c'est pas l'un ou l'autre.
L'un et l'autre.
Je pense que on n'apprécie pas assez ces cliniciens, ces infirmiers qui sont là 24 heures, 7 jours sur 7 quand on est malade et qui a ces industries qui nous donnent ces médicaments, qui vraiment nous sauvent des vies, améliorent notre qualité de vie. Mais ce n'est pas tout. Oui, on peut être un peu plus attentif à notre bien-être mental, à notre hygiène de vie. Il y a la méditation, mais ce n'est pas la seule chose. Le sommeil, ce qu'on mange, bouger plus. Et alors on peut dire, oui, mais c'est un effet de mode, peut-être. Mais entre-temps, c'est bien d'être un peu attentif. Et la méditation, en parler, comme j'essaye de faire dans ce livre qui est vraiment grand public, mais qui fait référence à des études scientifiques, je pense que comme neurologue, c'est ce qu'il fallait faire.
La méditation qui améliore nos vies, et qui pourrait peut-être aussi allonger la durée de la vie. Il y a des études en la matière qui sont menées.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas qu'on va avoir la vie éternelle ou guérir de toutes les maladies, tous les cancers. Non.
Mais il se passe quelque chose au niveau des chromosomes.
Tout à fait. Alors, c'est fascinant de voir que maintenant, on commence à mieux comprendre les mécanismes au niveau de l'ADN, des chromosomes, où il y a des petits sortes de capuchons qu'on appelle les télomères. Mmh. Et alors, ça protège ces chromosomes. Et quand on vieillit, et encore plus vite quand on est stressé, on voit que ces télomères, ces petites protections vont diminuer et la méditation, les études le montrent, peuvent ralentir ce processus. Alors c'est quand même formidable.
Steven Loray, c'est avec nous ce dimanche.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
La philosophie a souvent boudé les émotions en vénérant avant tout la raison. Martin Legros nous en dit plus dans quelques minutes dans notre grand dictionnaire. Avant cela, nous vous retrouvons encore pour quelques instants, Steven Loray. La méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est votre nouveau livre. Et à un moment, vous parlez de l'historien israélien Yuval Noah Harari, auteur de best-sellers comme Sapiens ou Homo Deus. La méditation qui joue un rôle important dans sa vie, on va l'écouter.
Moi, je médite 2 heures par jour. Chaque année, je fais une retraite longue entre 30 et 60 jours pour méditer. Ça fonctionne pour moi. Ça m'aide à être à la tête des algorithmes. Je dois me connaître et je dois connaître mes faiblesses avant que l'algorithme les découvre, parce que ça fonctionne sur les faiblesses. Quand vous essayez de pirater un ordinateur, vous trouvez la faiblesse dans le logiciel. C'est la même chose quand vous tentez de pirater un être humain. Vous essayez de découvrir quelles sont les faiblesses existantes, les peurs, les haines, l'avarice ou le truc comme ça, ce que vous pouvez utiliser pour manipuler cet individu. Moi, je veux être en avance et connaître mes faiblesses mieux que l'algorithme.
Très intéressant ces propos, Steven Loray. La méditation pourrait nous aider à mener une sorte de bataille face aux algorithmes, face au piratage annoncé de nos cerveaux, que répond le neurologue ?
Ici, je pense qu'il est important, c'est qu'il dit « ça me fait du bien, à moi ». Et à nouveau...
Mais il va plus loin. Hein.
Oui, mais je pense que c'est plutôt méditation 2.0, là. Et que il y a toute une série de choses à faire avant d'arriver à ce niveau-là. Mais c'était très intéressant. Il y a d'autres artistes. Il y a l'influence sur la créativité, ce que je pense est fascinant et important. Mais bon, notre cerveau, il est compliqué. Nous sommes aussi différents. Et donc, le défi, vraiment, je le répète, c'est plus compliqué d'avaler une pilule qui sera la même pour chacun. Mmh. Mais c'est de dire... Ben, est-ce que moi, ça me fait du bien et quel type de méditation? Parce que, comme le sport, il y a différentes disciplines.
Il ne faut pas que l'esprit scientifique exclue le sens spirituel. C'est ce que vous écrivez à la fin de votre essai, Stephen Lawrence. Qu'entendez-vous par sens spirituel, vous, le scientifique?
Alors moi, je suis... J'ai grandi dans une famille... Je suis flamand, bon catholique, j'étais au collège... Et puis, j'ai fait mes études à la VUB, hein, donc l'Université libre de Bruxelles, mais côté néerlandophone. Et donc là, c'est vraiment la méthodologie scientifique, le libre examen, antidogmatique. Et puis, comme chercheur, évidemment, c'est mon métier. C'est vraiment de confronter ce qu'on pense savoir avec ce qu'on pense mesurer. Et là, et je pense que c'est vraiment un défi. J'ai dû apprendre plein de trucs. Et je le constate, c'est la même chose qu'on demande à mes enfants. Et peut-être qu'on perd un peu le contact avec nous-mêmes, la nature. Et qu'il y a une différence entre... connaissance et puis vivre quelque chose. Et donc, je pense que chacun de nous, on peut regarder là, les étoiles la nuit, on peut voir un coucher de soleil, un bébé qui naît ou un des enfants qui sourit. Et comment est-ce qu'on remplit alors ces questions? Ou comme scientifique, on est là pour avoir des réponses. Mais je pense à nouveau que c'est bien... qu'on regarde le monde et l'univers de manière un peu plus émerveillée. Et il y a des choses qu'on a compris et c'est formidable, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, pour moi, c'est une quête spirituelle de quelque part remplir cela. C'était formidable. J'ai pu, à travers ma carrière, discuter avec des prix Nobel, aussi avec le pape, le Dalai Lama. Et donc, je suis... pas devenu bouddhiste après toutes ces longues discussions avec Mathieu, mais c'est clair qu'il y a ce besoin de parfois avoir des moments de contemplation, d'émerveillement.
Voici ma dernière question. À quelle question existentielle aimeriez-vous qu'un jour vos propres recherches apportent une réponse, Stephen Lawrence?
Alors, avec l'équipe, évidemment, on essaie de comprendre la conscience humaine. C'est déjà pas mal. C'est vraiment... une énorme question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Hein. C'est pas parce que c'est facile, mais bien le contraire. Et j'aimerais être témoin d'une meilleure compréhension de cela, parce qu'à côté de toute son importance, je dirais philosophique, il y a aussi vraiment la traduction vers la prise en charge comme médecin pour ces personnes qui ont des maladies de l'esprit, des cerveaux blessés. Et donc, je suis très heureux de pouvoir faire ce boulot avec l'équipe. Et voilà mon rêve, c'est essayer de comprendre ce grand mystère qui est la conscience.
Eh bien, merci Stephen Lawrence d'avoir été avec nous ce dimanche. La méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est votre tout nouveau livre. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.
Et Dieu dans tout ça.
Sur la première.
Au fil des semaines, il s'épaissit, son nombre de pages augmente, c'est notre grand dictionnaire et ce matin nous y ajoutons le mot émotion. Bonjour Martin Legros.
Bonjour Pascal Claude.
Vous êtes le rédacteur en chef du Philosophie Magazine et pour définir le mot émotion, nous faisons appel à Charles Darwin, celui qui est connu comme étant le père de la théorie de l'évolution, est aussi en fait un expert des émotions. Qu'en disait-il Martin ?
Oui, Pascal, on peut d'ailleurs s'étonner qu'il ait fallu attendre Charles Darwin, un scientifique, pour s'intéresser de près aux émotions. Il faut dire que dans la philosophie, les émotions, elles sont au cœur de notre existence, elles colorent notre rapport au monde, et pourtant la philosophie s'en est toujours méfiée. Émotion, ça vient de motio, ce qui met en mouvement, et c'est aussi ce qui vient troubler la paix de l'âme et la paix de la raison. Et donc les philosophes ont longtemps préconisé une forme d'impassibilité et de maîtrise des émotions. Et il a fallu donc attendre attendre longtemps. Et c'est peut-être chez Charles Darwin, en effet, qui est le premier qui a bousculé ce grand partage entre raison et émotion. Dans un texte de 1872, l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, un peu postérieur à l'origine des espèces, il donne aux émotions une importance fondamentale, considérant que c'est une forme de langage, un langage universel, qui a conféré à Homo sapiens un avantage adaptatif et sélectif fondamental. Si vous êtes dans une situation de grand danger, eh bien, au lieu de devoir en passer par un langage articulé pour exprimer ce que vous voyez, ce que vous percevez ou ce danger, eh bien, l'émotion, si je lis par exemple sur votre visage un effroi dans ce studio, je vais comprendre immédiatement qu'il y a un problème, davantage que si vous devez me fournir une explication. Un enfant à table qui se comporte mal, s'il voit son père froncer les sourcils, il va comprendre immédiatement qu'il y a un problème. Oui. Et Darwin évoquait d'ailleurs le fait que son premier-né comprenait tout de suite ses traits du visage, avant même de comprendre ce que signifiait le sourire. Il comprenait, il y avait un échange à travers les émotions. Et donc pour Darwin, l'émotion est un langage universel qui n'exprime pas seulement notre vie intérieure, nos sentiments intérieurs, flottants et ondulants. C'est le reflet du monde qui s'imprime en nous et que nous pouvons communiquer du même coup aux autres.
Est-ce que ces explications tiennent toujours la route aujourd'hui face aux dernières recherches dans le domaine des neurosciences ?
Alors, les recherches sur les émotions se sont énormément développées depuis Darwin. Les philosophes, William James, par exemple, a fait des avancées considérables, considérant que l'émotion était d'abord dans le corps, était une donnée corporelle. Et puis, en effet, vous le mentionnez, la psychologie et les neurosciences. Alors, il y a un psychologue, Paul Ekman, qui a confirmé un point de Darwin très important sur l'universalité des émotions. On a tous plus ou moins l'idée, du fait de notre fréquentation de l'ethnologie, que les Japonais et les Américains n'expriment pas les choses de la même manière, qu'il y a une passibilité asiatique et que donc les émotions ne s'exprimeraient pas de la même manière. C'est vrai, sauf que les recherches de Paul Ekman, qui a confronté des images qu'on a soumises à des populations de cultures très très différentes, ont montré que les hommes reconnaissent en réalité les 6 émotions fondamentales que lui a diagnostiquées, la tristesse et la joie, la surprise, la peur, la colère ou le dégoût. Eh bien, dans toutes les cultures, on reconnaît immédiatement l'expression de ces émotions. Et par ailleurs, pour ce qui est des neurosciences, les travaux de Antonio Damasio, auteur de L'erreur des cartes, ont confirmé aussi l'idée de Darwin que les émotions nous transmettent des informations essentielles si nous voulons, dans des situations, prendre les bonnes décisions. L'émotion n'est pas seulement une perturbation de ce qui se passe dans mon corps et dans ma vie, elle m'avertit de l'état de mon corps, mais aussi de la situation de l'environnement. Et cette information est très précieuse et doit être traitée. Donc il y a une réhabilitation, depuis Darwin, des émotions, comme d'une information que je dois traiter, que je ne peux pas ignorer dans la vie de tous les jours.
En quelques mots tout de même, pour terminer, Martin, dites-nous, que faut-il faire de ces émotions ?
Alors, si on abandonne la longue suspicion des classiques, des anciens pour les émotions, et qu'on les écoute comme des modalités de notre existence, comme des informations sur le monde, je dirais qu'il y a 3 attitudes face aux émotions. Les émotions sont des informations sur notre corps et sur le monde qu'il convient d'écouter. Ce sont aussi des expériences qui nous font apparaître le monde. La tristesse, c'est pas seulement un sentiment intérieur, elle révèle le monde dans un certain état, dans une certaine couleur, et donc cette révélation, eh bien, on peut la cultiver à travers l'art et l'esthétique, notamment. Et enfin, si on considère les émotions comme une sorte de ciment affectif qui relie les êtres et qui fait qu'on se comprend immédiatement à travers les émotions, en deçà de la raison, eh bien, il convient peut-être de les partager, de les partager ensemble, de les communiquer, de les exprimer, pour échapper peut-être aussi à la manipulation des émotions qui est de plus en plus prédominante sur les réseaux sociaux notamment. Eh bien, essayons de les partager sans se faire manipuler par nos émotions.
Merci à vous, Martin Legros, et bonne journée.
Merci, Pascal Claude.
Merci d'avoir écouté ce numéro des Dieux dans tout ça. Et vous savez quoi ? Et Dieu dans tout ça, c'est encore mieux en direct. La preuve, chaque dimanche, juste après le journal de 13h sur la première. À très vite.